monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Diaye et Claire Morin-Jubour avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir.
Course contre la montre pour tenter de sauver des milliers de personnes après le passage du cyclone Idai en Afrique australe.
Les manifestations se poursuivent en Algérie. Les dirigeants du mouvement de contestation demandent à l'armée de ne pas s'ingérer dans le jeu politique.
Le président américain Donald Trump reçoit ce mardi son homologue brésilien Jair Bolsonaro.
Les forces démocratiques syriennes continuent d'avancer dans l'ultime réduit du groupe État islamique dans l'est de la Syrie.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
On démarre ce journal par l'actualité africaine où le programme alimentaire mondial dit avoir commencé à acheminer de l'aide pour 500 000 à 600 000 personnes au Mozambique dévastées en fin de semaine dernière par le cyclone Idai. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Nous estimons que 1,7 million de personnes se trouvaient sur la trajectoire du cyclone, a affirmé Hervé Véroussel, porte-parole du PAM. Il a relevé que le plus grand défi pour le moment est l'accès aux populations affectées, car l'eau recouvre une grande partie de la zone touchée. Pour l'instant, le PAM a pu faire venir un premier avion cargo avec 22 tonnes d'aide. Un premier hélicoptère de l'organe onusien travaille sur le terrain. C'est le meilleur moyen d'atteindre la région affectée et deux hélicoptères supplémentaires sont en route, a expliqué le porte-parole du PAM, précisant que les bateaux seront également importants pour accéder à la population. Le cyclone qui a balayé le centre du Mozambique puis l'est du Zimbabwe a fait au moins 182 morts, mais le bilan pourrait dépasser le millier de morts, a prévenu lundi le président mozambicain Filipe Nyusi. Le PAM estime que 920 000 personnes ont été affectées au Malawi et 15 000 au Zimbabwe. Le gouvernement mozambicain évalue à quelque 600 000 le nombre de personnes touchées.
L'Union africaine a consulté tous les signataires de l'accord de paix centrafricain à Addis Abeba, où se tient une réunion de suivi. L'accord est mis à mal après l'annonce début mars du nouveau gouvernement. Cette réunion de suivi a été convoquée par l'UA le 6 mars, après l'annonce du nouveau gouvernement issu de l'accord, jugé non inclusif par la majorité des groupes armés présents à Khartoum. La plupart d'entre eux ont alors appelé à un remaniement ministériel.
Les Nations Unies exhortent le président de la RDC, Félix Tshisekedi, à former rapidement un nouveau gouvernement. Leila Zerougui, représentante spéciale et chef de la MONUSCO, a déclaré au Conseil de sécurité que les attentes de la population congolaise sont immenses et qu'il est crucial de ne pas la faire trop attendre ni de la décevoir. Félix Tshisekedi, investi en janvier, n'a toujours pas nommé de premier ministre ni de gouvernement. Il est lié par l'accord politique à son prédécesseur Joseph Kabila, dont la coalition a conservé la majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Trois personnes ont été tuées lors de l'attaque par des militants de Boko Haram lors d'une ville du nord-est du Nigeria. Selon des témoins, des djihadistes à bord de plusieurs véhicules et motos ont pris d'assaut Michika dans l'état d'Adamawa, près de la frontière avec le Borno, lundi, forçant certains habitants à quitter la ville, tandis que d'autres se terraient chez eux. Ils ont maîtrisé quelques soldats et dévalisé une banque avant de l'incendier, a déclaré un habitant de Michika.
En Algérie, des milliers d'étudiants rejoints par des professionnels de la santé étaient dans les rues ce mardi, jour anniversaire de la fin de la guerre d'indépendance. Ils continuent de réclamer le départ du président Bouteflika, qui a répété la veille qu'il n'entendait pas partir, alors même que beaucoup appellent l'armée à prendre ses responsabilités. On fait le point avec John Lindon.
Les étudiants en colère refusent le prolongement du mandat du chef de l'État. Ainsi scandaient-ils ce mardi. À leur côté, de nombreux professionnels du secteur médical qui ont rejoint le mouvement de contestation. 19 mars 1962, fin de la guerre d'Algérie. 19 mars 2019, début de changement du système, pouvait-on lire sur une pancarte en référence à l'entrée en vigueur il y a 57 ans du cessez-le-feu mettant fin à la guerre d'indépendance contre la France. Confronté à une contestation inédite depuis son élection à la tête de l'État il y a 20 ans, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, à la santé précaire, a renoncé à briguer un cinquième mandat. Mais il a prolongé son mandat actuel en repoussant sine die la présidentielle, initialement prévue le 18 avril. une décision qui a été majoritairement rejetée par la rue. Des militaires, dirigeants politiques et membres de l'opposition, réunis au sein de la Coordination nationale pour le changement, ont appelé l'armée à jouer son rôle constitutionnel et à ne pas interférer avec les choix du peuple. Le groupe a aussi demandé au président Bouteflika de quitter ses fonctions à la fin de son mandat le 28 avril. Mais dans un message écrit à la Nation, le président algérien a réitéré sa volonté de remettre le pouvoir à un successeur qui sera élu bien après l'expiration de son mandat.
Et on revient sur la situation en Algérie dans la partie magazine.
Un navire humanitaire ayant secouru 49 migrants au large de la Libye était bloqué ce mardi au large de l'île italienne de Lampedusa. Les autorités italiennes lui interdisaient d'accoster. Il ne s'agit pas d'une opération de sauvetage, c'est de l'aide à l'immigration clandestine, a déclaré le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Les arrivées de migrants, déjà en nette baisse avant l'arrivée au pouvoir de ce leader d'extrême droite, sont quasiment à l'arrêt sur les côtes italiennes à cause de son intransigeance sur l'immigration.
Par ailleurs, le cordon bébé a été repêché et au moins 8 migrants sont portés disparus après le naufrage ce mardi de leur embarcation au large de la Libye. C'est ce qu'a indiqué un responsable libyen.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, les forces syriennes soutenues par les États-Unis ont déclaré qu'elles sont sur le point de vaincre l'État islamique dans son dernier retranchement à Baghouz, dans l'est de la Syrie. Les précisions d'Irénée Herman Ongbo.
Ce n'est pas une annonce de victoire, mais un progrès significatif dans la lutte contre les djihadistes de l'État islamique, a déclaré sur Twitter l'un des responsables à la communication des forces démocratiques syriennes, Mustafa Bali. L'offensive de ce mardi a permis d'arrêter 157 djihadistes, la plupart des étrangers qui tentaient de fuir Baghouz, indique-t-il. Parmi eux, des combattants impliqués dans l'attentat suicide de janvier qui avait coûté la vie à 5 Américains en Syrie. La bataille n'est pas encore terminée, des djihadistes ont pris leurs enfants comme boucliers humains, mais nous progressons, a fait savoir Mustafa Bali. La défaite du groupe à Baghouz marquera un tournant dans la lutte contre les djihadistes, même si les adhérents sont encore largement perçus comme une grave menace pour la sécurité, avec une présence dans des coins reculés et capable de mener des attaques de guérilla. Au cours des deux derniers mois, plus de 60 000 personnes sont sorties de l'enclave, près de la moitié des partisans de l'État islamique et parmi eux, quelques 5 000 combattants.
Le président américain Donald Trump a affirmé aujourd'hui que les relations entre les États-Unis et le Brésil n'avaient jamais été meilleures. Le chef de la Maison-Blanche recevait son homologue brésilien Jair Bolsonaro dans le bureau Oval. Le point avec Eric Manurakiza.
Le Venezuela a occupé la majeure partie de l'entretien des deux chefs d'État. Jair Bolsonaro a apporté son soutien à la campagne de pression américaine contre le socialiste Maduro. Pour accroître la pression, Washington impose au Venezuela des sanctions économiques et a décrété un embargo sur le pétrole, exportation cruciale pour l'économie du pays qui doit entrer en vigueur le 28 avril. De nouvelles sanctions ont été annoncées ce matin par le Trésor américain. Elles visent la compagnie minière d'État vénézuélienne, Minerven, ainsi que son président, Washington, les accusant de soutenir le régime illégitime de celui considéré désormais comme ancien président Nicolas Maduro. Le président Donald Trump a réitéré que toutes les options étaient examinées pour faire partir M. Maduro du pouvoir. Le Brésil figure parmi plus d'une cinquantaine de pays qui ont reconnu l'opposant et président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, comme président par intérim du Venezuela.
Les États-Unis qui ont d'ailleurs sanctionné la compagnie minière d'État vénézuélienne Minerven ainsi que son président. Le Trésor américain accuse le régime de Nicolas Maduro d'avoir encouragé l'exploitation de l'or pour, je les cite, s'enrichir au détriment du peuple vénézuélien.
Theresa May va adresser d'ici demain une lettre à l'Union européenne pour demander un report du Brexit. La première ministre est ainsi forcée de reconnaître que l'impasse au Parlement britannique pour faire adopter son accord de divorce s'est muée en crise.
Aux Pays-Bas, la piste terroriste est étudiée sérieusement dans l'enquête sur la fusillade qui a fait 3 morts lundi dans un tramway à Utrecht. Les enquêteurs se basent notamment sur une lettre retrouvée dans la voiture du suspect, Gökmen Tanis, un homme de 37 ans né en Turquie.
En Inde, au moins 2 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un bâtiment en construction dans le district de Dharwad, dans le sud du pays. Plus de 150 personnes pourraient se trouver sous les décombres, selon un responsable local.
Et pour finir, le pape François a refusé la démission du cardinal Philippe Barbarin en invoquant la présomption d'innocence.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
Au Liberia, Firestone Natural Rubber, filiale de Bridgestone Americas, licenciera 800 personnes, soit 13% de ses effectifs au second trimestre de cette année. Pour justifier cette décision jugée nécessaire, l'entreprise accuse des pertes insoutenables découlant de frais généraux élevés relatifs à l'exploitation de la concession et la faible production de caoutchouc. Le Zimbabwe veut vendre des actions d'une banque et de 5 sociétés de télécommunications appartenant à l'État afin de récolter 350 millions de dollars. Ces ventes, qui s'inscrivent dans le cadre des réformes économiques que le gouvernement a entreprises, devraient permettre de réduire les dépenses publiques et relever l'économie zimbabwéenne. Cette économie connaît actuellement une grave crise du dollar et est confrontée à une sécheresse qui a détruit les cultures et laissé 5,3 millions de personnes dans le besoin d'une aide alimentaire. Le FMI exhorte le Soudan du Sud à cesser immédiatement de contracter des avances pétrolières coûteuses et non transparentes car elles entravent les dépenses indispensables à la mise en œuvre d'un accord de paix. En plus, ces prêts ne donnent pas de garantie que les revenus pétroliers seront pleinement disponibles pour financer les dépenses budgétaires. Avec une enveloppe de ressources restreinte, les autorités devraient donner la priorité aux dépenses de base liées à la paix et au paiement des salaires des fonctionnaires.
Et maintenant, la passeport, présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Le Gabon jouera sa qualification avec Aubameyang.
Oui, dans l'obligation de s'imposer samedi au Burundi pour valider sa qualification, le Gabon pourra compter sur son capitaine et joueur vedette, Pierre-Emerick Aubameyang. En froid avec sa fédération et absent lors des 2 derniers matchs face au Soudan du Sud et au Mali, l'attaquant d'Arsenal avait laissé planer le doute sur sa participation à ce match capital. Mais Aubameyang a décidé d'honorer sa convocation, une bonne nouvelle pour le sélectionneur Daniel Cousin, qui a débuté le rassemblement sans aucune garantie de la part du Gunner.
2 forfaits pour le Cameroun.
Oui, samedi, les Lions indomptables seront privés de 2 joueurs initialement convoqués par Clarence Seedorf pour le match décisif de la dernière journée des éliminatoires face aux Comores. Le défenseur central Jean-Armel Kanabiyik et l'attaquant Stéphane Bauken, auteur du but égalisateur à l'aller, le milieu offensif Wilfried Kaptoum du Betis Séville et l'ailier Olivier Boumal ont été appelés en renfort pour les remplacer.
Cristiano Ronaldo a rejoint l'équipe du Portugal.
Oui, après une absence de presque 9 mois, la star portugaise s'est entraînée avec sa sélection pour la première fois depuis le Mondial 2018. Le groupe des champions d'Europe en titre était au complet au 2e jour du stage de préparation pour les premiers matchs de qualification pour l'Euro 2020. Vendredi face à l'Ukraine et lundi prochain face à la Serbie, Cristiano Ronaldo n'a plus joué pour le Portugal depuis son élimination en 8e de finale du Mondial 2018. Le quintuple le Ballon d'Or a fait l'impasse sur les 6 derniers matchs de la CNSAO pour faciliter son adaptation à la Juventus Turin, club qui l'a rejoint l'été dernier en provenance du Real Madrid.
En cyclisme, Mekseb Debeze et sa sœur sont champions d'Afrique.
Et oui, comme depuis l'entame de la compétition, l'Érythréen a bouclé la boucle lors des 14e championnats d'Afrique de cyclisme en Éthiopie. Chez les dames, Mosana Dibese s'impose devant l'Éthiopienne Eiru Tesfoam Gerbou et la Sud-Africaine Johanna Van de Winkel. La famille Debeze a de quoi célébrer avec la victoire chez les hommes de Mekseb. Il devance les Algériens Azedine Lagab et Youssef Redigui. Chez les moins de 23 ans aussi, l'Érythrée était au top avec les succès de Disseït Kidane chez les dames devant l'Éthiopienne Selam Gebreseyen et la Burkinabé Awa Bamogo. Chez les hommes, victoire de Enoch Mouloubiran devant l'Algérien Yassine Hamza et le Burkinabé Paul Domon.
Merci Yacouba.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Clairement, Njibour et Abdourahmane Diab, toujours avec vous pour la seconde partie du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place au dossier du jour.
En Algérie, la rue ne décolère pas. Alors que le pays célèbre le 57e anniversaire de la fin de la guerre d'indépendance, des milliers d'étudiants ont été rejoints par des professionnels de la santé pour manifester à Alger. Ils réclament le départ du président Bouteflika, qui a renoncé la semaine dernière à briguer un cinquième mandat, mais qui a repoussé la présidentielle initialement prévue en avril. Pour une analyse de la situation, Morgane Guériec a joint Amédou Ould Abdallah, ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères et président du Centre de sécurité stratégie pour le Sahel et le Sahara.
L'Algérie a une vieille tradition de révolution, de refus de la domination, du refus de l'oppression. Et je suis sûr que les dirigeants actuels, dont beaucoup sont issus de cette culture, comprennent qu'il est extrêmement important de bien gérer et de faire le compromis avec la population. L'Algérie ne va pas accepter les responsables comme la population une nouvelle décennie de violence. Cette manifestation, est-ce qu'il s'inscrit dans les mouvements d'octobre 88 et de la décennie noire? Apparemment non, parce qu'il est calme, il est sans violence, mais les acteurs sont déterminés.
L'armée pourrait-elle basculer du côté des manifestants?
L'armée algérienne est l'une des rares armées de la région à avoir une légitimité. Elle est issue du FLN, de l'armée de libération nationale, celle qui a fait la résistance. Mais la guerre s'est arrêtée en 1962. Donc nous avons une nouvelle génération de militaires, jeunes, diplômés. L'armée, à mon avis, et on l'a vu au début de la crise, a montré une sympathie pour la population. Il y a eu aussi une inflexion disant que l'armée est proche du peuple. J'espère, je suis sûr qu'il y aura un compromis. La fuite en avant serait désastreuse pour le pays et naturellement pour nous tous, les voisins du Sahel et aussi des grands pays de l'autre côté de la Méditerranée, France en particulier, mais aussi Espagne et Italie.
Alors justement, quelles sont les implications de cette crise pour la région?
D'abord, les implications politiques. Il peut y avoir un effet de contagion. La population dans beaucoup de pays peut dire on va abandonner le système électoral. À quoi mène le système électoral? Parce que ceux qui sont au pouvoir gagnent. Donc il y a une tentation de contagion par des manifestations. Je pense que ça montre la maturité des populations. Il y a une implication aussi pour le terrorisme, qu'il y aura moins de surveillance, mais la grande implication sera surtout économique. Il y aura un arrêt, pour le moment en tout cas, du commerce entre l'Algérie et les régions frontalières de Mauritanie, du Mali et du Niger, sans parler des échanges occultes informels qui font vivre beaucoup de populations. Donc la crise algérienne n'est pas une crise banale.
C'était l'ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères, Amédou Ould Abdallah. Il était joint à Nouakchott.
Ce soir, dans À votre avis, nous parlons de la gestion des catastrophes naturelles en Afrique. Au Mozambique et au Zimbabwe, des milliers de personnes sont réfugiées sur des arbres ou des toits après le passage du cyclone Idai. Inondations, sécheresses, désertification, quelles sont les initiatives prises dans vos pays pour réduire les risques de catastrophes et quelles mesures suggériez-vous pour venir en aide aux populations sinistrées? Morgane Guériec en votre compagnie, réagissez en direct à 18h temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons.
On va se rendre maintenant dans l'est de la République démocratique du Congo, où après une série d'enlèvements récents d'enfants à Kadjoutchou, au sud Kivu, le mouvement international de lutte contre les violences faites aux femmes, V-Day, vient d'y mener une campagne dénommée One Billion Rising. Objectif, sensibiliser cette population pour qu'elle dénonce ces pratiques qui s'accompagnent souvent d'assassinats et de mutilations des organes de ses enfants. Le point sur place avec Ernest Mouero.
<t'-> à ce rythme que cette 7e édition de la campagne One Billion Rising pour dénoncer les violences faites à la femme a vibré à Katana, à 52 km de Bukavu.
One Billion Rising!
À cette occasion, plus d'une centaine de survivantes des violences sexuelles, pour la plupart réinsérées dans leur communauté par Videi, sont venues unir leur voix à celle des habitants des Kabamba et Kajuchu, des villages terrorisés par des enlèvements répétitifs des enfants et la mutilation de leurs organes reproductifs. Christine Runiga est habitante de Kajuchu. Voici son témoignage.
Je sais, il y a deux filles. Une fille de 13 ans qu'on a tuée et une fille de 8 ans. Il y a aussi un garçon qu'on a rencontré au marais. Donc nous connaissons vraiment des cas. Mais on se demande quelle est la solution et comment on va trouver la paix. On ne sait plus envoyer l'enfant. Même pour aller à l'école, on se demande comment l'enfant va partir seul.
Les raisons de ces pratiques restent mal connues, mais leur récurrence crée des interrogations dans la société, affirme Jean-Baptiste Baïga, président de la société civile des Katana.
Il y a un système d'étranglement, communément appelé Kabanga. Nous, on se demande dans Kajuchu, est-ce qu'il y a un marché créé pour les systèmes de mutilation de Kabanga? Où est-ce qu'on voit ces appareils de génitaux?
Cette tribune libre de protestation et d'éveil de conscience sous le slogan « S'élever, résister et s'unir » et à coup sûr une occasion d'interpeller les autorités. Christine Schuller de Scriver, représentante nationale des Videi en RDC.
On ne peut pas rester assis confortablement dans nos bureaux alors qu'on est en train de dégorger des enfants, on leur arrache leurs organes. Je ne sais pas ce que les gens ont en tête pour croire de telles pratiques, quoi. En tuant avec ce qu'on appelle le kabanga, ça veut dire avec les fameuses cordes magiques où on vous égorge puis on doit ramener la corde. Mais qui est derrière toutes ces pratiques? C'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Et je pense que si tout un chacun devrait à son niveau se dire qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour dénoncer ça. Donc moi je voudrais vraiment m'adresser à nos nouvelles autorités et leur dire que je sais que le Congo est un pays post-conflit où tout est urgent et prioritaire, mais que la priorité des priorités c'est la sécurité de la population.
Voilà une solidarité qui éveille la conscience de la femme d'ici qui s'engage à lutter pour son bien-être intégral. Ernest Mouero à Katana pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Le chômage et la déforestation constituent deux problèmes majeurs dans beaucoup de pays. La quête de bois pour le chauffage ou la construction entraîne la déforestation qui, à son tour, a des effets néfastes pour l'environnement et le climat. Un ébéniste ivoirien a décidé de faire quelque chose pour à la fois réduire la déforestation et gagner sa vie. Avec du matériel recyclé, il fabrique des boîtes de sonorisation. Le récit est d'Olivia Gakima.
Fofana Moussa est ébéniste, mais pas un ébéniste ordinaire. Sa spécialité est la fabrication de boîtes de sonorisation. Avec du matériel recyclé, Moussa a fait des produits de qualité qui sont ensuite vendus. Son inspiration a été un constat d'un besoin de réduire la déforestation.
Qu'est-ce qui m'a inspiré à faire ce travail? C'est d'abord l'aspect écologique. De nos jours, il y a le changement climatique, ça prend de l'ampleur. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller acheter du bois qui sort directement de la forêt. C'est ce que les gens jettent, souvent récupèrent, et souvent aussi on va acheter avec... des grossistes qui rassemblent et nous on va acheter avec eux.
Grâce à la qualité de ses bois de sonorisation artisanale, Moussa a vu sa clientèle croître à Abidjan. La majorité de ses clients sont des Nigérians qui utilisent ces bois de sonorisation pour des haut-parleurs.
Je traite avec Moussa pour ces boîtes de sonorisation. Je les utilise pour mes haut-parleurs parce qu'elles sont de bonne qualité. Donc quand je viens ici, j'en prends beaucoup.
Fofana Moussa veut inspirer les jeunes à contribuer dans la lutte contre le changement climatique.
Ce que je voudrais dire surtout à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que chacun doit lutter de son côté du changement climatique. Regarde ce qui se passe un peu en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. C'est sûr, aujourd'hui, nous, petits Africains, un peu de moyens, on arrive à penser à quelque chose pour évoluer, pour dire, ah voilà, au lieu de chaque fois aller couper nos forêts, pour nous faire de ça, et si on couperait ce qui était déjà sur place.
Fofana Moussa est une inspiration pour les jeunes démunis. Il emploie 4 autres personnes dans son atelier, leur permettant ainsi de gagner leur vie, tout en contribuant dans la lutte contre le changement climatique.
Le reportage était d'Olivia Gakima, mais le récit était de Lionel Gaïma.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Visite au Cameroun du secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, a rencontré hier le président Paul Biya Yaoundé. Le contexte de ce voyage était quelque peu tendu. Le gouvernement camerounais a mal digéré les récentes sorties médiatiques du diplomate américain sur la gestion de la crise anglophone, de même que sur la mise aux arrêts de l'opposant Maurice Kamto et une centaine de ses partisans. Pour analyse, John Lyndon a joint le professeur Joseph Touda Ebodé. Il est le directeur du Centre de recherche politique et stratégique à Yaoundé.
On peut retenir principalement 2 choses. La première chose, c'est que c'est une reprise de contact au niveau assez élevé après une hibernation assez longue. Et la troisième chose, c'est que cette visite arrive à un moment où il y avait un certain nombre de préoccupations dans l'opinion publique et dans la classe politique. Et la position américaine est donc venue plus ou moins se donner la version américaine ou la position américaine par rapport à ces problématiques.
Alors, dans un tweet, M. Tibor Nagy dit avoir eu avec le président Biya des discussions sur la sécurité et les droits de l'homme. Y a-t-il un problème de respect des droits de l'homme au Cameroun?
Ça dépend de comment on regarde tout cela. Je crois que du point de vue des États-Unis, et lorsqu'on lit l'ensemble de leurs rapports publiés ces derniers temps, il y a des accusations de violation des droits de l'homme, c'est une évidence du point de vue de leur rapport. Du point de vue du Cameroun, c'est pas certain que tout ce qui est indiqué comme violation des droits de l'homme est une atteinte aux droits de l'homme. Donc, de toutes les manières, la rencontre aura permis au moins de donner et d'écouter les uns et les autres. Néanmoins, dans la déclaration de circonstances, il n'a pas évoqué cet aspect en disant que les questions diplomatiques sont couvertes du show, du secret.
Avant son arrivée au Cameroun, on a quand même remarqué un échange de mots, parfois pas très diplomatique, entre le côté américain et le Cameroun. On a enterré, j'ai envie de dire, la hache de guerre.
Disons, dans les déclarations à la sortie de l'audience, on a l'impression qu'on a enterré la hache de guerre, mais vous savez aussi que c'est un comportement diplomatique normal. C'est plutôt le précédent comportement qui n'était pas tout à fait très diplomatique.
Et comment voyez-vous l'avenir des relations entre les États-Unis et le Cameroun au cours des prochaines années?
Moi, je crois que les relations entre le Cameroun et les États-Unis sont dans une bonne perspective. Je voudrais quand même souligner que ce fut le premier pays qui a reconnu l'État du Cameroun et que jusqu'aux années 90, il n'y a jamais eu de différents majeurs entre le Cameroun et les États-Unis. La lutte contre le terrorisme dans la zone du golfe de Guinée, surtout au niveau du Boko Haram, je crois qu'il est de l'intérêt des États-Unis que la situation contre le terrorisme s'améliore. Il est aussi de l'intérêt du Cameroun et des États de la sous-région.
Voilà, c'était le professeur Joseph Touda Ebodé à Yaoundé.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Lionel Gaïma, à la console Sidrak Franklin, au micro Claire Morin-Gibourg et Abdourahmane Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, c'est un seul site internet voafrique.com et notre page Facebook. Au revoir.
VOA Afrique.